Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Le titre de mon message ce soir est Assis au bureau des taxes. Assis au bureau des taxes. C'est vraiment, vraiment d'actualité avec tout le scandale des commandites. Tournez avec moi dans l'évangile de Matthieu, le 9e chapitre et le 9e verset. Matthieu 9, 9. Assis au bureau des taxes. J'aimerais ce soir faire appel à votre imagination. Je n'ai pas le budget d'Hollywood et je n'ai pas les intentions d'Hollywood, mais je crois que l'imagination d'un jeune suffit ce soir pour me suivre bien comme il faut dans la parole de Dieu. Alors, je veux faire appel à votre imagination, votre capacité, peut-être pas pour tout le monde, mais pour la majorité d'entre nous, votre capacité de penser 4 fois plus vite que vous parlez. Alors, pense à la personne qui parle le plus vite que tu connais. Imagine comment cette personne-là pense vite. Moi, je suis capable de parler vite, fait que je pourrais dire que je pense peut-être 3 fois plus vite que je parle. Peut-être pas 4 fois parce que je suis capable de parler vite. Mais imagine un instant comment tu peux penser rapidement. Et j'aimerais faire appel à ton imagination. J'aimerais qu'on se transporte ensemble dans un tout petit village. Il y a 2000 ans de cela, un petit village sur le bord de la mer de Galilée, un petit village qui s'appelle Capharnaüm, un village qui était un village de pêcheurs surtout, l'économie de ce village-là était surtout à cause des pêcheurs, un petit village qui est tellement près, qui est tout près de l'eau, puis même une rue là, qui passe presque très, très, très près de l'eau. J'aimerais que tu puisses imaginer la scène dans une grande maison où il y a une cour intérieure. Il y a peut-être un genre de toit avec des branches à l'époque qui étaient mises comme un genre de parasol, de parasoleil à l'époque, des hommes qui ont brisé le toit, qui ont descendu un paralytique. La maison est bondée de monde. Imagine-toi des gens qui sont debout, des gens qui montent, qui s'accrochent après des endroits sur la maison, des gens qui sont peut-être même assis sur les parois des murs alentour d'eux. Il y a du monde, c'est bondé de monde. Peut-être que Jésus n'a même pas d'endroit pour bouger tellement que les gens sont là. Il enseigne la foule. Un paralytique descend, Jésus guérit le paralytique. L'homme qui était étendu sur un lit, ne pouvait même pas bouger lui-même, ne pouvait même pas se rendre jusqu'à Jésus lui-même, se lève debout. Tout le monde est ébahi, tout le monde est transporté, tout le monde est renversé. La fête commence, la Bible dit, les gens commencent à louer Dieu. C'est du jamais vu, mais je dois que ça prendrait place ici ce soir. C'est du jamais vu, les gens ont jamais vu une telle scène. La Bible dit, la party commence, imagine-toi les confettis lancés dans la ville. Les feux d'artifice commencent, Benson and Hedges, les gros spotlights à Hollywood qui remplissent le ciel à boule de disco, les gens qui dansent. C'est simple, par exemple, une célébration pour Jésus. Les gens s'éclatent, t'entends des cris, t'entends des rires, t'entends des alléluia. C'est incroyable. Dans la maison, ça brasse. Le pauvre propriétaire essaie de retourner les murs, toute la maison à chèque. Et à travers toute cette scène-là, tu le vois-tu dans ta tête un instant ce soir? Hein? T'es capable de penser encore 4 fois plus vite que j'ai parlé. Dans toute cette scène-là, la Bible nous dit que Jésus est en train de sortir de la maison. Entends le bruit, là, un instant. Jésus est en train de sortir de la maison. Et la Bible nous dit, il vit en passant quelqu'un qui n'était pas dans le party. Il vit en passant quelqu'un qui n'était pas dans la fête. Il vit en passant quelqu'un qui n'était pas dans le cercle religieux de l'époque. Il vit en passant un homme qui n'avait pas une culture religieuse. Il vit en passant un homme qui avait une mauvaise réputation. Un homme que la Bible dit qui faisait partie de certaines personnes qui avaient la réputation d'être des gens de mauvaise vie. Un gars, en bon québécois, jeunesse aujourd'hui, on pourrait dire, un gars qui n'était pas un gars d'église. Un gars qui n'était pas dans la présence de Dieu. Un gars qui n'avait pas écouté les enseignements de Jésus. Un gars qui était à l'extérieur de tout ce qui était en train de prendre place, qui était si extraordinaire. La Bible l'appelle Matthieu. Un homme qui était assis au bureau des taxes. Et la Bible nous dit, on va lire ensemble tout de suite dans Matthieu 9:9. La Bible nous dit que Jésus sortit de la maison et il le vit. En passant, Matthieu 9:9, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et cet homme se leva. Je remets dans ma tête, dans ce que j'étudie, alors que cette semaine, dans mes vacances, j'ai amené littéralement, on était dans un chalet, et j'ai amené avec moi, au cas où qu'il pleuve, j'ai amené un sac de hockey plein de livres. Et ma femme et mes enfants pleuraient parce que j'allais les abandonner pour la semaine. Je dis non, c'est juste au cas où qu'il y en a un qui sera pas bon, je vais en prendre un autre. Et on était allé à la bibliothèque municipale et j'étais allé recueillir des livres sur l'histoire des Juifs, le contexte, vouloir étudier des historiens séculiers qui avait écrit des briques sur l'Empire de Rome. Et durant mes vacances, assis sur le balcon du chalet, je feuilletais les pages, je regardais, j'ai scruté des livres, je les ai passés au peigne fin, j'ai passé à travers plusieurs bouquins pour pouvoir étudier, connaître, et surtout découvrir plus sur le contexte de ce texte qu'on est en train de regarder ce soir. Puis plus j'étudiais, plus je trouvais des choses qui me renversaient, plus, vous voyez souvent dans la Bible, on voit Jésus, on voit le ministère de Jésus. Mais quand tu commences à étudier des écrits séculiers, quand tu commences à lire des écrits d'historiens qui ont fait des analyses du contexte et de la vie de l'époque, la culture, c'est même pas des sources chrétiennes qui parlent de la Bible, qui dans leurs livres d'histoire de Rome utilisent des termes comme les péagers, les collecteurs d'impôts du temps de Jésus. Qui commence à expliquer tout le contexte alentour de moi. C'est comme si humainement, je dis pas spirituellement, mais c'est comme si humainement, je me voyais un instant à côté de Jésus, qui marche et qui voit. Et rien ne peut faire déroger son regard. Il n'y a aucune fête, aucune célébration, même pas la victoire qui vient d'arriver ne peut l'empêcher. Jésus même pas, peut-être que sûrement, je suis certain que dans son amour pour le paralytique, il a célébré. Mais un instant plus tard, il était déjà au prochain homme à aider. Et personne ne pouvait le faire déroger de son regard. Personne ne pouvait le retirer un peu. Il dit, Seigneur, reste avec nous et célébrer. Non, il y a quelqu'un dehors. J'entends mon Père qui me pousse dehors. Il y a quelqu'un qui a besoin. Il y a quelqu'un qui n'est pas un gars d'église. Il y a quelqu'un qui n'est pas un gars de réunion. Il y a quelqu'un qui n'est pas un gars de musique. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'air d'être in dans notre gang. Il y a quelqu'un qui a peut-être la réputation d'être un gars de mauvaise vie. Mais mon cœur m'attire vers lui. Mon Père m'attire vers lui. Son besoin, son cri, son vide, son désespoir, la lourdeur de son cœur m'attire à sortir de tout ce qui va bien. Sortir de la bonne réunion. Sortir de toute la célébration. Et step out, comme on dirait en anglais. Et aller sur le bord du lac où il y avait ce bureau de péagers, où il y avait ces soldats corrompus payés par les péagers, les collecteurs d'impôts qui opprimaient le peuple. Et j'imagine un peu la scène. Et humainement, je m'imaginais arriver à quelque part et dire, « Seigneur, tu peux pas jeter ton regard sur lui. » Imagine-toi Jésus qui jette son regard sur lui. Personne ne peut le déroger. Tout à coup, il crie sa robe chaude, il se place. « Hey! Pas lui, Seigneur! » Plus je regarde, plus je lis, plus j'apprends sur quel type de gars c'est. « Seigneur, pas lui! » Lui, il ne peut pas faire partie de tes disciples. Lui ne peut pas faire partie des 12. 50 ans auparavant, je ne vais pas vous faire tout un cours d'histoire ce soir, mais c'est presque, c'est comme si on dirait que Dieu n'est pas au courant. C'est comme s'il y a presque une naïveté dans le regard de Jésus. Comme s'il ne savait pas, c'est de l'ironie ce que je dis, mais comme s'il ne savait pas qui est Matthieu. 50 ans auparavant, l'Empire de Rome a vécu une période où il n'y avait pas d'empereur pendant plusieurs années. Où deux hommes, Octave et Antoine, étaient des généraux montants qui s'attaquaient l'un l'autre par toutes sortes de prospectus. Parce qu'à l'époque, pour être empereur, il fallait que tu sois voté par les gens. Tu ne peux pas juste prendre le pouvoir par la force comme ça. Mais même s'ils sont attaqués, tout ça, ils cherchaient les votes des gens. Ces deux hommes-là s'attaquaient par des prospectus, des petits papiers, ils payaient des gens, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimés, payaient des gens qui remplissaient les papiers, remplissaient la ville de Rome pour attaquer l'autre. Octave a attaqué Antoine, disant, tu peux pas imaginer, vous pouvez pas imaginer, ne le voulez pas, vous ne le voulez sûrement pas comme empereur, comme prochain empereur pour toute l'Empire. C'est l'homme le plus dépravé que vous avez jamais vu. Puis il écrivait les orgies sensuelles, sexuelles, incroyables, de gloutonnerie, d'ivrognerie que ces hommes faisaient. Et pendant à peu près ce que l'historien appelle une période d'à peu près 16 à 17 ans, une citation va apparaître à l'écran juste rapidement, deux phrases d'historien séculier, qui est Ronald Sim, qui dit que c'était une période embrouillée, chaotique, la période la plus affreuse de l'Empire romain. Ceux qui dirigeaient l'Empire étaient, entre autres, les riches publicains enrichis au détriment des pauvres. À cette époque-là, des gens comme Matthieu recueillaient à peu près 40 % des revenus du peuple. Et tu dois comprendre ce soir qu'il n'y avait presque pas de classe moyenne. C'était des riches, quelques riches ou beaucoup de pauvres. Et pour un pauvre, si tu fais un taxi, tu vas dire peut-être que moi, dans ma braquette de taxes au gouvernement, je donne 45 à 50 %. Mais attends une minute, nous, on a des retours d'impôts. Aucun retour d'impôts. Et le collecteur d'impôts recueillait 40 % et plus de trois taxes qui étaient imposées aux gens. Les gens pouvaient crier, pouvaient faire n'importe quoi au bureau de taxes quand le collecteur d'impôts disait « Non, t'as pas payé assez. » Puis qu'il se mettait une grosse balance de cash dans son autre poche, lui personnellement. Puis si les gens résistaient, il y avait toujours deux gardes romains de l'Empire romain, deux gardes romains à côté de lui, de la garde républicaine, qui étaient payés, qui étaient corrompus pour forcer les gens même physiquement, au risque de leur vie, au risque de tuer la personne si elle ne payait pas ses taxes. Les collecteurs d'impôts étaient perçus, étaient vus, c'était régulier chez les gens, chez le peuple d'Israël tout particulièrement, on les appelait les rapaces. Il y avait près de la chaîne de montagnes du Carmel en Israël, proche de l'océan, il y avait des vautours, des rapaces, des aigles qui étaient reconnus pour être sans scrupules, parfois même peut-être fondre sur un enfant. Et on appelait les collecteurs d'impôts, les péagers, on les appelait des rapaces, des gens qui avaient la réputation d'être dieux, des gens qui avaient la réputation d'être fraudeurs, des gens qui avaient un regard sans merci, des gens qui pouvaient regarder une veuve, un orphelin, un pauvre type qui travaillait de toutes ses forces, un pauvre Pierre qui pêchait ses poissons de toutes ses forces, puis il prenait 40% puis il en prenait plus, puis il n'y avait aucun scrupule, aucun remords devant tout le monde qui était là comme ça. Des hommes qui s'invitaient les uns les autres, les riches. Chaque riche invitait le plus riche que lui, qui pouvait peut-être le faire monter dans la société et dans l'Empire romain. Il s'offrait comme cadeau des grandes fêtes. Des fêtes où il faisait venir des escortes, des prostituées, des prostituées homosexuelles, des endroits de grandes débauches, des endroits, des fêtes qui duraient plusieurs jours, des endroits d'ivrognerie. Parle-moi de rave, puis d'after hours, puis d'after, after, after, after hours, puis tomorrow, after hours. C'était des parties à plus finir. Des endroits où les gens allaient se mettre le doigt dans la gorge pour vider leur repas, pour retourner manger. Ça avait plus de fin. Des gens de mauvaise vie. Des gens qui n'avaient pas une culture d'église. Matthieu n'avait pas un langage d'église. Matthieu n'avait pas une culture d'église. Matthieu n'allait pas à la synagogue. Matthieu ne pouvait pas aller à la synagogue. Et la Bible nous dit que même si Christian Rabichou stompe, tombe dans l'histoire, dépose ses deux pieds dans la Bible et dit « Seigneur Jésus, tu ne peux pas imaginer c'est qui tu vas choisir. Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas tourner ton regard vers Matthieu? Non. Va à la synagogue pour trouver ton prochain disciple. Va à Impact Jeunesse. Viens à la nuit de prière. Va dans un JR. Seigneur, va voir les jeunes qui prient. Va dans un contexte spirituel. Seigneur, va à l'oratoire Saint-Joseph, peut-être à Montréal. Va chercher quelqu'un qui est pieux. Seigneur, dans tes disciples, dans tes prochains super-héros, les 12 hommes qui vont bouleverser le monde, Seigneur, qui vont des martyrs pour toi, qui vont gagner les nations pour toi, ces hommes qui vont bouleverser sens dessous le monde, Seigneur, va les chercher dans un contexte pieux. Mais Dieu ne pense pas comme nous on pense. La Bible nous dit que Jésus, sorti de toute la victoire, posa son regard en chemin sur un homme qui ne fitait pas dans un contexte religieux à l'époque. Et ce soir, je suis venu vous parler de l'amour de Dieu, la pensée de Dieu. Puis écoutez-moi bien, pour chaque personne qui est ici ce soir. Écoutez-moi bien. La beauté de la croissance spirituelle, la beauté pour chacun d'entre vous et moi le premier, la croissance spirituelle de chacun d'entre nous doit être et est strictement reliée étroitement à une plus grande connaissance de qui Jésus est, de comment il pense, qu'il ne voit pas comme nous, qu'il ne pense pas comme nous. Et il ne voit pas ce que nous voyons. Il ne voit pas les gens alentour de nous comme nous on les voit. Il ne les perçoit pas comme nous on les perçoit. J'aimerais te dire ceci ce soir. Peu importe comment toi tu te perçois, peu importe comment les gens te perçoivent, peu importe la réputation qui plane sur toi comme un nuage, j'aimerais te dire ceci ce soir. Jésus ne te voit pas comme les hommes te voient. Et Jésus est ce Dieu, ce Créateur de l'univers, qui a cette capacité, à travers la victoire, à travers la foule, à travers les miracles, à travers toute l'excitation, l'excitement dans une maison où ce que, imagine-toi la maison où le miracle est en train de se produire, que tout est en train de revoler dans la maison, on pogne les casseroles, on se met à danser, wouh, il y a quelqu'un qui est guéri. Puis imagine-toi la scène, juste à côté, à un tout petit bureau, un homme qui n'est pas là. Un homme qui est à part. Un homme, Dieu sait. Dieu connaît son cœur. Dieu ne choisit pas n'importe qui comme ça. Dieu voit son cœur. On le sait par plusieurs textes dans l'Ancien Testament. On sait, on peut déduire ensemble que c'est certainement un homme au cœur brisé. Un homme qui en a tanné, qui est tanné de sa vie. Un homme qui en a marre. Un homme qui est en train de collecter les impôts, en train de se mettre de l'argent, puis en train de sûrement... Je dis, j'ai assez hâte que le party commence ce soir, de plus être à jeun pour enfin me sentir un peu bien. Je peux-tu la squeezer encore un peu? Je peux-tu lui tordre le bras encore un peu à ce pêcheur de poissons? Est-ce que je peux encore peut-être le primer un peu plus, faire un peu plus d'argent à son détriment, peut-être le nuire encore un peu plus parce que moi, je souffre tellement en dedans. Ce soir, je vais inviter des amis, on va se faire un party, on va mettre de l'argent là-dedans, on va avoir du fun, on va boire, puis ayant bu, là, je vais pouvoir oublier le vide qui est en dedans de moi. Parce que de toute façon, Dieu veut rien savoir de moi. C'est ce que les pharisiens me disent depuis tellement longtemps. De toute façon, je peux pas y aller à la synagogue, je suis pas accepté, je suis pas aimé. Peux-tu imaginer Matthieu? Peux-tu te mettre dans sa peau un instant ce soir de voir Jésus-Christ? Sortir, celui qui a créé le party, celui qui a initié toute l'excitation, celui qui a lancé toute la célébration, sort de la maison puis vient vers lui. Moi, j'ai entendu ton cri. Moi, j'ai entendu le vide de ton cœur. J'aimerais te dire ceci ce soir. J'aimerais te parler de deux choses rapidement. J'aimerais te parler premièrement de l'attraction de Christ. Et deuxièmement, de l'humiliation de l'homme. Premièrement, de l'attraction de Christ. As-tu remarqué? Jésus n'était pas un étranger pour Matthieu. Jésus avait déjà fait des miracles à Capernaum. Jésus avait déjà enseigné dans la ville. Ce n'était pas une grande ville. Tout se savait tellement vite. Jésus, sa réputation s'était répandue déjà tellement. Jésus était connu. Matthieu savait qui était Jésus. Matthieu l'avait peut-être déjà vu passer. Matthieu avait entendu parler de lui. Il avait entendu parler de ses miracles. Qui était Jésus, ça s'était rendu jusqu'à Matthieu. Mais Jésus lui-même ne s'était pas encore rendu jusqu'à Matthieu. Peux-tu imaginer la scène quand Jésus lui a entendu le cœur de Matthieu, a vu son sentiment d'indignité, son humilité. Puis ça, je vais parler de ça au deuxième point. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu vers lui. Peux-tu imaginer la puissance des mots du Seigneur Jésus? Jésus lui a dit, « Suis-moi. » Une simple parole. « Suis-moi. » Et la Bible nous dit que instantanément, automatiquement, je ne peux pas imaginer dans ma tête, la Bible est trop merveilleuse, je ne peux pas imaginer un Matthieu qui dit, « OK, Seigneur, il n'est pas une petite son cache, je mets ça dans ses poches, dans sa sac. Oh, je m'en viens. » Je ne peux pas voir un Matthieu comme ça. Moi, je peux voir un Matthieu qui n'est pas une petite son cache, puis puis qui se met à suivre Jésus instantanément. As-tu pensé au magnétisme, à l'attraction que Jésus a exercée sur cet homme? Peux-tu penser un instant à quel point, quel paradoxe, un homme
qui vient d'un contexte, comme je t'ai expliqué, un homme qui vient d'un contexte tellement hors Église, une société tellement anti-Dieu, un homme qui fitrait tellement à Matthieu, il aurait tellement bien rentré dans le monde des jeunes non-chrétiens en 2005, de party, de sortie, de « je couche avec ma blonde », de toute une vie. La Bible les appelait, les gens les appelaient des gens de mauvaise vie, pas parce qu'ils étaient des méchants dans le fond de leur cœur et voulaient juste faire mal à quelqu'un, mais des gens qui n'avaient pas une vie selon les standards que la Bible leur demandait, selon les standards de la loi de Dieu. Des gens qui avaient une vie tellement, simplement, ça voulait simplement dire ça, mauvaise vie, des gens qui avaient une vie tellement contraire à ce que Dieu demande. Dieu sort, lui, et il va vers lui. Il l'appelle, il dit une seule chose. Pensez ce soir. Quelle puissance d'attraction avait Jésus? Peux-tu imaginer quelle force qui s'est dégagée de Jésus? Quelque chose d'invisible. Alors que j'étudiais le magnétisme, que j'ai regardé dans différentes encyclopédies, dictionnaires, j'étudiais même un bouquin scientifique sur qu'est-ce que c'est le magnétisme. C'est difficile à expliquer. Magnétisme, peut-être que certains jeunes qui utilisent ça en ingénierie pourraient m'aider, ou en sciences peu pourraient m'aider, mais c'est invisible, le magnétisme. C'est invisible. C'est un phénomène invisible, le magnétisme. Et Jésus-Christ exerce depuis 2000 ans sur des millions d'êtres humains partout à travers le monde entier un magnétisme spirituel indescriptible, invisible. Inexplicable. On pourrait tout faire pour essayer de l'expliquer. Ça ne s'explique pas. Jésus exerce une force d'attraction. Il est dit à quelques endroits dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, il est dit à deux ou trois reprises, le Fils de l'homme doit être élevé et tous les hommes de la terre viendront vers lui. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il ne parlait pas juste du moment où il irait à la croix, mais il parlait d'un moment où il serait élevé dans la vie de Christian Robichaud, plus présent dans ta vie. Plus de place pour Jésus dans ton cœur. Et automatiquement, alors qu'il s'élève dans ta vie, un magnétisme que tu ne peux pas exprimer, que tu ne peux pas expliquer, pardon, se met à s'exercer. Pas que les gens viennent vers toi, mais que tu vois des gens commencer à suivre Jésus à cause d'une puissance de magnétisme. Maintenant, suis-moi bien. La Bible nous dit, le verset d'après, on sait que le soir même, Jésus est chez Matthieu. Ils sont en train de manger ensemble. Et la Bible nous dit, sur deux versions des évangiles différents qui se complètent tellement bien, la Bible nous dit, la maison s'est remplie d'autres personnes comme Matthieu. La Bible nous dit, toutes les chums à Matthieu, toutes les autres gens de mauvaise vie, toutes les autres publicains, toutes les autres péagers, toutes les autres collecteurs d'impôts, en passage pour ton information personnelle, le publicain, comme Zachée l'était, Zachée c'est probablement le seul publicain de la parole de Dieu, c'était le chef de tous les collecteurs d'impôts. Zachée était certainement responsable de toutes les collectes d'impôts pour toute la Judée, pour l'Empire romain. C'était un homme extrêmement riche, Zachée. Mais quand Jésus a passé dans sa vie, même toutes ses richesses ont débarqué. Il était prêt à rendre plusieurs fois n'importe qui avait volé. Puis croyez-moi, c'était tout un voleur. Et quand Jésus a passé dans sa vie, il y a tellement de force qui s'est exercée. Il y a tellement une attraction qui est sortie de Jésus que Zachée s'est humilié à monter dans un arbre. Et quand Jésus s'est retrouvé dans la maison du collecteur d'impôts, Matthieu, peut-être qu'il connaissait Zachée, peut-être que Zachée c'était le patron de Matthieu. Quand Jésus s'est retrouvé dans la maison de Matthieu, la Bible nous dit qu'il y a eu comme un déclic qui s'est fait. Il y a eu comme un effet domino. Il y a eu comme une porte qui s'est ouverte. Il y a eu comme un nouveau chemin qui s'est frayé dans la société de l'époque. Instantanément, tous ceux qui étaient exclus des synagogues, tous ceux qui étaient regardés, tous ceux qui quand ils passaient, la seule chose qu'au moins les Juifs pouvaient oser faire, c'est plac, cracher à terre devant eux. Ceux qui étaient haïs, à cause de leur méchanceté, de leur mauvaise vie. Quand Jésus est venu, quelque chose de nouveau est arrivé. La maison commence à se remplir. Peux-tu imaginer la scène ce soir? Use d'imagination. Imagine-toi un serviteur chez Matthieu qui disait à son ami, hey, tu sais pas quoi, ce Jésus qui fait des miracles, ce Jésus qui parle, qui fait trembler les cœurs, il vient souper chez Matthieu ce soir. Quoi? Puis là, ça se dit un à l'autre. Puis un autre collecteur d'impôts, puis un autre homme de mauvaise vie. Puis à plusieurs endroits dans les textes, Jésus va même coller l'expression « prostituée et collecteurs d'impôts. Pécheurs, prostituées, collecteurs d'impôts. C'était des gens de mauvaise vie. Des gens qui avaient tellement de regrets sur leur vie. Des gens qui avaient tellement de honte des choses qu'ils avaient faites. Imagine-toi la maison qui commence à se remplir. Cette fois-ci, pas pour faire un gros party. Pas pour saouler, pas pour triper. Parce que Jésus est là. Cette fois-ci, c'est Jésus qui va faire le party. La veille, Jésus a fait le party parce qu'il avait guéri un homme physiquement. Mais cette soirée-là, il faisait le party parce qu'il était en train de guérir des cœurs et des âmes et des vies. Peux-tu imaginer la scène? Peux-tu imaginer l'attraction que Jésus exerçait sur ces gens-là? As-tu pensé que dans Luc 15, le 15e chapitre, le premier verset, ça dit « Tous les péchés, les gens de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts, tous s'approchaient de Jésus. » Quel paradoxe! Un Jésus si pur, un Jésus si parfait, un Jésus qui prêchait un message si radical, si tranchant, un Jésus qui disait aux gens, « On vous a dit, si tu couches avec une autre femme, tu as commis l'adultère. Moi, je vous dis, si tu regardes et convoites une autre femme, tu as commis déjà l'adultère avec elle. Si tu penses faire du mal à quelqu'un, tu es coupable de meurtre devant Dieu. » Jésus avait un message extrêmement radical et sain. Quel paradoxe! C'est Jésus qui enseignait de façon si radicale. Ne repoussez pas les pécheurs. Ne repoussez pas par son enseignement les gens de mauvaise vie. Au contraire, il les attirait. La Bible nous dit dans Luc 15:1, tous venaient vers lui. La Bible nous dit que ces gens-là le suivaient partout où il allait. La Bible nous dit qu'une grande proportion des foules étaient des gens de mauvaise vie. Et la Bible nous dit que Jésus avait la réputation d'être ami des gens de mauvaise vie. Question pour toi ce soir. Sujet de réflexion. Comment ça se peut, ça? Comment ça peut se faire, ça? Qu'un Dieu si parfait, on a chanté « Saint est le Seigneur », un Dieu si trois fois saint, un Dieu avec un enseignement si radical, si tranchant. Comment ça peut se faire, ça? Quel paradoxe! Comment se peut-il que Jésus ait exercé une telle attraction sur les gens? Tout homme en présence de Dieu a l'instinct et le réflexe de s'éloigner de Dieu. N'importe qui pense à Dieu, même la personne la meilleure, même la personne qui se pense la... Oui. Ça va? C'est Mathieu. Mathieu est venu nous voir. Même la personne, écoutez-moi bien, même la personne qui n'a jamais commis des atrocités terribles, en contact ou à la simple pensée d'être devant Dieu, a le réflexe de s'éloigner, a le réflexe de reculer, a le réflexe de pencher la tête, a le réflexe de fuir. Je ne peux pas penser à un être humain sous le soleil, je ne peux pas penser à un jeune ici ce soir qui, lorsqu'il pense à ses erreurs, à ses regrets, à ses péchés, et si tu veux, on va prendre un exemple ce soir. On va te prendre toi en exemple. Fais-tu ça un instant? Je te prends toi en exemple ce soir. Pense cette semaine à ce que tu as regardé. Pense cette semaine à ce que tu as pensé. Pense cette semaine à ce que tu as regardé à la télévision. Un instant. À ce que tu as regardé sur Internet. Pense cette semaine aux paroles qui sont sorties de ta bouche contre quelqu'un, paroles de méchanceté. Pense cette semaine peut-être aux gestes, aux endroits que tu as pu aller. Est-ce que tu as mis dans ta bouche? Est-ce que tu as consommé? Pense cette semaine à ce que tu aurais dû faire puis tu ne l'as pas fait. Pense cette semaine aux fois que le Seigneur t'a appelé dans le lieu secret puis tu n'es pas allé. Pense cette semaine aux gens avec qui tu t'es assis puis tu as fait compromis de tes valeurs puis de tes principes les plus fondamentaux qui sont au fond de toi-même. Maintenant, viens te placer devant Dieu. C'est quoi le réflexe que tu as? Devenir « Ah, me voici. » Ah non, ça, c'est l'hypocrisie. Le réflexe humain devant Dieu, même si tu es grâce dans une famille chrétienne, peu importe, même si tu es la petite fille la plus fine au monde, même si tu es un ange, le réflexe de n'importe quel être humain devant Dieu, c'est de s'en aller. C'est de fuir. C'est de ne pas y aller. C'est de se pousser. C'est de ne pas y aller à l'église. C'est ça le réflexe. Qu'est-ce que les jeunes font quand ils pêchent? Ils arrêtent de venir à jeunesse, ils arrêtent de venir à l'église. Parce que c'est un réflexe humain. Pourquoi est-ce que ces gens-là venaient à Jésus? Il était là, devant eux! Pourquoi est-ce que Jésus exerçait une telle attraction sur eux? Je crois de tout mon cœur que le secret repose dans la simplicité de qui Jésus était et qui l'est encore aujourd'hui. Jésus émanait une force d'amour extraordinaire envers tous les gens qui l'écoutaient. Jésus pouvait se promener dans une foule et les gens, c'était un magnétisme, c'était inexplicable. Jésus pouvait juste être là à travers la foule et les gens ressentaient qu'il aimait. Vous allez être gentil? Merci. Jésus pouvait être n'importe où, n'importe quand, pouvait être en présence de gens de mauvaise vie. Et son amour était tellement grand que son amour dépassait leur sentiment de culpabilité. Son amour et son pardon et sa grâce, il ne les jugeait pas. Son amour était tellement puissant que son amour tirait plus fort vers lui que leur condamnation pouvait les repousser de lui. Son amour surpassait leur sentiment d'indignité devant Dieu. Quelle vision pour Impact Jeunesse, hein? Alors qu'aujourd'hui, la Bible a dit que nous sommes la semence de Christ. Que nous sommes, Jésus était le premier-né d'entre les morts, que nous, on est la suite. On est né d'entre les morts, on est ressuscité en lui à une nouvelle vie. Notre ancienne vie est finie. Et que maintenant, Jésus veut revivre son ministère à travers moi et toi. On cherche une vision pour Impact Jeunesse? Quelle vision pour Impact Jeunesse? Quelle vision, quel rêve? Là, je sais quoi rêver. Là, je sais quoi prier. Plus que jamais. Là, je sais de quoi remplir mes pensées. Je sais de quoi je veux saturer mes rêves. J'ai un rêve d'adolescents qui jouent avec leurs chums, qui sont chrétiens, qui aiment Dieu, qui ne feront pas de compromis avec le monde, mais qui sont proches de jeunes, qui ont des contacts avec d'autres ados qui ne sont pas des jeunes d'église, des ados qui sont des ados de mauvaise vie, qui n'ont pas une culture chrétienne, puis qui se tiennent avec eux, qui les aiment, et qu'il y a quelque chose qui sort d'eux, qui est surnaturel, un magnétisme spirituel à cause de Jésus dans leur vie. Je sais de quoi je rêve. Quand j'entends parler d'une leader de GI qui sort de son appartement, qui va sur la rue, qui invite des jeunes pas chrétiens à venir à son GI. Puis qu'une jeune fille commence à venir, puis au début, elle lance des roches sur l'église, elle dit toutes sortes de choses sur l'église, et de fois en fois, elle commence à s'approcher de Dieu. Tout dernièrement, les larmes aux yeux, j'ai besoin de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Une attraction qui s'est faite. Je rêve de vivre en multiplication. Quand j'entends parler d'un jeune homme qui sort d'une soirée de GI, avec sa Bible dans le bras, il descend les escaliers d'un bloc appartement, et qui croise un homme, un jeune homme, qui lui dit, hey, t'as une Bible. Il dit, ça fait au-delà de 10 ans que je suis un rétrograde, que je suis loin de Dieu. J'aimerais revenir à Dieu, mais je ne sais pas comment. Et il y a 2 semaines, on était au barbecue d'Impact Jeunesse, puis j'étais là, puis j'étais en train de parler avec un gars, juste apprendre à le connaître. Tout à coup, lui vient voir, il dit, hey, c'est-tu? C'est lui! Le gars que je t'ai dit, qu'est-ce que tu vas? J'étais là, puis il me raconte toute l'histoire. Puis de le voir là, il y a une attraction qui s'est faite. Un gars qui n'avait pas une culture d'église, un gars qui n'avait pas une culture chrétienne, mais une attraction qui s'est exercée sur lui. Je rêve de témoignages comme ça. Je rêve quand j'entends parler d'un jeune homme pas chrétien, jamais venu à l'église, qui est venu au barbecue jeunesse, qui n'a pas pu rester jusqu'à la fin parce qu'il sortait dans un gros party de la Saint-Jean, il allait dans un gros show, puis il disait à des jeunes avant de partir, il dit, il y a quelque chose ici. C'est différent, je ne sais pas comment le dire. Il est comme... Les gens sont heureux, puis ils sont à jeun. Ils boivent du Pepsi. C'est qui ont ces jeunes-là? Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas rien. Je rêve, puis il dit, il y a de quoi, je chante quoi. Il ne sait pas comment dire. J'aurais essayé de parler, j'aurais essayé de dire, tu ne sais pas comment dire. Moi non plus, je ne sais pas comment dire. C'est comme une espèce d'attraction. On se sent tiré à Dieu, on se sent tiré à son amour. Je rêve de témoignages comme ça. Je rêve de multiplication de ça. Je rêve de moments, je rêve de 500 moments comme ça où je suis assis dans un parc un dimanche après-midi avec un jeune homme que du fond de sa prison, c'est une vraie prison, a crié à Dieu. Dieu l'a sorti de là, en contact avec lui. Toute une longue histoire, je ne peux pas raconter. Assis dans le parc, puis il est retombé, il a rechuté, il sent mal, mais il n'est pas capable de s'éloigner de Dieu, il revient tout le temps. Je rêve d'histoires, des vraies affaires, là. Moi, qui n'ai jamais rien fait, la pire affaire que j'ai faite dans ma vie, là, je pensais à ça l'autre jour, le pire geste de rébellion que j'ai fait dans ma vie, c'est à 11 ans, j'ai pris une Super Bowl, puis je l'ai lancé dans le miroir, puis le miroir, il n'a même pas cassé. Puis je suis assis en face d'un gars, un jeune homme, qui me dit, « Pasteur Chris, tu ne peux pas comprendre. J'ai pris mon père cette semaine, je l'ai levé d'une main, puis je l'ai slugué dans ma colère. Mon père est tombé comme mort. Puis c'est moi qui ai appelé la police, c'est moi qui ai appelé l'ambulance, puis je pleurais, puis finalement, il est revenu, il était correct. J'ai besoin. » Puis qu'on parlait ensemble au parc, puis je lui parlais de la paternité de Dieu, qui pleurait dans le parc, le jeune homme. Je rêve de plein de moments comme ça. Je rêve de moments où des jeunes qui n'ont pas une culture chrétienne se sentent attirés à Dieu. Je rêve de jeunes d'église qui sortent de l'église. Je rêve de jeunes chrétiens qui brisent leur cercle fermé entre chrétiens, qui step out et qui se mettent à devenir amis des gens de mauvaise vie. Hallelujah! Sans être influencé, mais en exerçant une attraction pour les amener au Seigneur. J'aimerais tellement ça que quelqu'un m'appelle cette semaine au bureau. Tellement ça. Qu'il dise, Pasteur Chris, tu sais pas quoi? Non, je sais pas quoi. tu sais là, Emmanuel Moreau, qu'est-ce qu'elle est, Emmanuel Moreau? Je l'ai vu cette semaine sur une terrasse au centre-ville. Elle parlait avec trois filles. Il y avait des bières sur la table. Puis une fille, elle fumait un joint. Pasteur Chris, qu'est-ce qui se passe? La femme du pasteur des prédélicents. Puis là, d'un coup, j'appelle Emmanuel. Je dis, Emmanuel, tu peux me parler, hein? Tu sais que je t'aime. Ouvre-moi ton cœur. Ça va-tu bien dans ton couple? Qu'est-ce qui te fait, Mathieu? Elle commence à me dire, non, tu comprends pas. C'est deux, trois filles qui vont venir à Genèse demain. Des filles que je connais de nanana. J'arrive d'histoire de même. C'est du coup, en passant, le joint, elle n'a jamais fumé, elle l'écrasait à terre. Puis elle s'est mise à pleurer. Puis la fille, elle t'a pas dit qu'il y avait peut-être trois bières à sa table, mais il y avait une Bible. Puis elle était ouverte, puis c'est moi qui parlais, puis c'est les autres qui écoutaient. J'arrive d'histoire de même. Parce que quand je regarde Jésus, à plusieurs endroits, même Jésus s'en vantait. Jésus disait, je suis appelé ami des gens de mauvaise vie. Savez-vous que Jésus-Christ est le même aujourd'hui? Il a le même caractère, la même nature, les mêmes désirs, les mêmes passions qui brûlent en lui. Que si on lui donne plus de place dans nos vies, il va juste revivre son ministère d'il y a 2000 ans. Si tu veux savoir à quel point Jésus a de la place dans ta vie, regarde à quel point es-tu ami des gens de mauvaise vie. Sans faire ce qu'ils font, sans compromettre, crée-moi là. Si le party de la veille était terrible avant que Jésus rentre dans la maison de Matthieu. Là. Si c'était sensuel, c'était terrible, qu'est-ce qui se passait là? Crois-moi, là, le soir où Jésus est entré, c'est lui qui a fait le party. Il n'y avait plus rien de sensuel. Puis il n'y en avait plus de gloutonnerie, puis il n'y en avait plus d'ivrognerie, puis il n'y en avait plus de choses comme ça. Il n'y avait plus grand monde qui parlait dans la place. Il y avait Jésus qui enseignait. Quelle scène, hein? Les pharisiens dehors ne veulent même pas rentrer dans la maison. Jésus, il mange avec les gens, les péagers, Jésus comme ça. Puis il parle aux disciples. La Bible dit, Jésus est dans la maison, il les entend. Puis savez-vous qu'est-ce que Jésus fait? Il répond. Puis savez-vous c'est quoi sa réponse? Il commence à parler de la brebis perdue. Il commence à parler du fils prodigue. Hey, ces gens-là, là, ils ont entendu des paroles extraordinaires. Dans un endroit où la veille c'était le party. Il y a à peu près 10 ans de cela, quelqu'un, un membre de ma famille, pas chrétien, que je connaissais très peu, m'invite. Je vais le dire ce soir, c'est mon beau-père. Mon beau-père, c'est un grand gaillard, policier à la retraite, un homme qui a tué des gens dans sa vie, un homme qui a tué deux gars qui ont fait un hold-up dans la citadelle à Québec, un homme qui, alors qu'un tueur à gage est rentré dans son bureau, à la police, tout ça, il a sorti son gun, boum, il a tué le gars. Puis il me raconte 3-4 histoires comme ça, alors qu'on fait 8 heures de Jeep, dans le fond de la forêt, proche de la baie James. On s'en va faire un voyage de pêche. Je le connais pas, moi, le monsieur. Il commence à me raconter toutes sortes d'histoires de même, des histoires de hold-up, des gars avec des mitraillettes des années 70 à Québec, puis les gangs, tout ça, les motards. Puis lui, il est arrivé, là, puis boum, boum, bang! Puis là, là, la tête a explosé. Puis on écoute du Pavarotti en même temps. Là, là, là! Puis là, il me compte cette histoire. Je dis, aïe, il va arriver quelque chose. Puis là, il dit, hey, faut que je te montre quelque chose. Appuie sur un bouton, puis il y a une petite porte qui s'ouvre entre nous deux. Puis il sent un gros magnum. Puis il dit, check mon gun. Ça va. OK, je vais le garder. Puis on embarque sur un bateau. On part sur une petite île en plein milieu d'un lac. Un beau chalet en bois, là, un endroit qu'il va régulièrement avec ses amis. Et puis, alors qu'il arrive là, qu'on arrive là ensemble, il me raconte que ses amis l'ont laissé tomber, puis c'est pour ça que moi, je suis là. Et puis, c'est ma femme qui a dit, « Ben, vas-y avec Christian, puis on se connaît même pas. On va apprendre à se connaître. » Puis on commence à mettre des couleurs dans le bateau. Des couleurs lourdes, là. Des caisses lourdes. Là. Puis là, on arrive, sur, on passe, on traverse le lac, on arrive en plein milieu, la petite île, on monte toutes les choses en haut. Puis là, je dis, « Coudonc, John, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est donc bien lourd. »« Oh, hey! On va s'en péter tout un, mon gars! » Je dis ça, rouvre les couleurs, 2-3 viniers, des caisses de bière, toute la quête. « Ah, du fun, mon gars, on va en boire toute une à son pêche, puis le soir, on boit! » Là, je dis, « Aïe, je dis, écoute, moi, je bois pas. »« Ah, oh, non. » Le soir même, là, tu sais, il va falloir l'enlever de la cassette. Le soir même, là, parce qu'il n'a pas encore donné sa vie à Dieu, cet homme-là, je la regarde. I like that. La Bible me dit, Jésus était ami des gens de mauvaise vie. J'aimerais ça avoir plein d'amis pas chrétiens. Mais je veux pas qu'ils m'influencent. Je veux moins les influencer. As-tu des amis pas chrétiens? Ou es-tu pris dans un cercle, une bulle de chrétiens, là, de monastiques? Là, de... Come on! Jésus exerçait une attraction extraordinaire. Et je termine avec cette pensée ce soir. Premièrement, l'attraction de Christ. Deuxièmement, l'humiliation de l'homme. Est-ce que j'écris quoi dans mes notes? Souvent, je ne regarde pas mes notes quand je prêche. J'écris quoi dans mes notes? J'ai écrit, je veux voir des mégots de cigarettes. Je rêve, là, qu'avant la réunion, les gars de sécurité viennent me voir. Hey, Christian, tu sais pas qu'est-ce qui se passe? Quoi? Les jeunes ne peuvent même plus rentrer dans la réunion. Il y a tellement de jeunes qui fument dehors avant la réunion. Là, puis là, les jeunes, ils mettent des masques à gaz pour rentrer dans l'église. Là. Tellement qu'il y a du monde pas chrétien qui viennent à l'église. Il faut qu'il y ait des mégots. Il faut qu'on soit pogné. Il faut passer le balai après la réunion. Puis il y a plein de mégots de cigarettes à terre. Il faut ça. Puis si tu es ici ce soir, puis tu aimes Jésus, puis tu fumes, écoute, le Seigneur, il t'aime, puis il te respecte, puis c'est juste pas bon pour la santé, puis il n'a pas besoin d'être chrétien pour le dire, toute la société le dit, puis le Seigneur veut ton bien, il veut, puis il peut te délivrer de ça. Mais écoutez-moi bien, je veux ça, moi. Je veux voir ça. Je veux sortir de l'église, puis dire, oh mon Dieu, il va falloir faire quelque chose. Je veux avoir des beaux problèmes. Je veux avoir des bons problèmes. Pour moi, un bon problème, c'est ça. Pour moi, des mauvais problèmes, là, c'est tel gars à jeunesse, là, il ne parle plus à telle fille là, parce qu'ils ont sorti ensemble, puis ça n'a pas marché, puis ils ont cassé, puis ils se boudent. What the heck is that? C'est quoi cette affaire-là? On n'est pas une garderie ici, nous autres. On est là pour conquérir le monde pour Jésus. Moi, je veux des... J'en veux plein, Nicolas. J'en veux plein. J'en veux plein, plein, plein. Des Samuel Bélanger qui a raconté son témoignage au baptême d'eau. Sam, qui ont marché ensemble sur le plateau Mont-Royal, puis me contait des affaires, je ne peux pas répéter ici. J'en veux plein de ça. J'ai besoin de ça. Ça, c'est le caractère de Jésus. Puis j'aimerais te dire ce soir, si tu n'es pas un gars d'église, puis tu es ici ce soir, on t'aime. Tu es bienvenu à Impact Jeunesse. Puis tu viens comme que tu es. Que tu aies goûté à la prostitution, à l'homosexualité, à la drogue, à la débauche, que tu aies goûté à l'ivrognerie, que tu aies goûté au matérialisme, à la richesse, que tu aies goûté à la fraude, au mensonge, que tu aies été un usurpateur, que tu aies été un méchant, quelqu'un qui opprime les autres. J'aimerais te dire, tu es bienvenu à Impact Jeunesse. Parce qu'ici, si Jésus est rentré dans la maison des pécheurs et des gens de mauvaise vie, à bien plus forte raison, les gens de mauvaise vie sont bienvenus dans la maison de Dieu. Puis la maison de Dieu, elle est là pour eux. Je t'emmène avec cette pensée-là. Premièrement, l'attraction de Christ. Et deuxièmement, l'humiliation de l'homme. En terminant ce soir, j'aimerais juste vous lancer cette pensée. Ces gens-là étaient appelés gens de mauvaise vie, mais le terme en grec qui était utilisé dans la Bible, c'est « amartolos », qui vient du mot « amartia », qui vient du mot « péché ». Plusieurs Bibles traduisent le verset en disant « c'était des pécheurs ». Mais j'aime bien une version de la Bible qui dit « c'était des gens de mauvaise vie ». Et savez-vous qu'est-ce qui est extra? Savez-vous qu'est-ce qui est ironique? Qu'est-ce qui ne fit pas? C'est que tu as les pharisiens qui sont là, puis qui pointent ces gens-là, puis qui disent, ce sont des gens de mauvaise vie, amartolos. Mais en même temps, ils sont en train d'utiliser un terme théologique et biblique, et même de la loi de Dieu, la loi qu'ils connaissent eux-mêmes, puis qu'ils l'enseignent eux-mêmes, les pharisiens. Ils sont en train d'utiliser un terme qui est universel pour toute l'humanité au complet. Ils sont en train de dire, hey, ça, c'est des gens de mauvaise vie, mais la Bible a dit, toi aussi, tu es de mauvaise vie. Tout le monde est de mauvaise vie. Devant Dieu, il n'y a pas personne qui est grand. Devant Dieu, il n'y a pas personne qui se tient debout. Devant Dieu, il n'y a pas personne qui est digne. Et Jésus regarde les pharisiens. Et ça me touche tellement. Jésus regarde les pharisiens. Version 2005. Jésus regarde des bons jeunes qui n'ont jamais rien fait de mal. Ah, j'ai jamais couché avec un gars, moi. Moi, j'ai jamais touché à de la drogue. Hey, moi, là... tu viendras pas me dire que ça vaut pas quelque chose toutes les années que je me suis gardé pour le Seigneur. Tu viendras pas me dire que ça va pas m'être rendu tout ce que j'ai fait pour Dieu. Pourquoi Dieu me répond pas? J'ai tout fait ça pour Dieu. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai pas touché à ça. J'ai pas fait de péché. Non. Pourquoi est-ce que Dieu me répond pas? Pourquoi est-ce que j'ai une épreuve? Pourquoi est-ce que la maladie rentre dans ma vie? Pourquoi est-ce que t'as l'affaire? Pourquoi est-ce que je suis pas marié encore? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et Jésus regarde ce type de personnes-là. Parce que la Bible nous dit que les Juifs venaient vers Jésus, puis les Juifs discutaient avec lui. Oh, mais nous, les fils d'Abraham. Tout à coup, Jésus, il brise, il casse la discussion, puis il dit ceci aux Juifs. Il dit, les collecteurs d'impôts, les péagers, les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Version 2005, ils vous clenchent. Pourquoi? Pourquoi? Jésus est en train de leur dire, vous vous discutez, vous vous justifiez, vous vous dites, hey, moi je suis une bonne personne, mais pendant ce temps-là. Puis même un endroit, Jésus dit, vous avez discuté de Jean-Baptiste. Jésus même dit, vous n'aimiez pas Jean-Baptiste. Vous m'aimez pas, vous dites que je suis un glouton puis que je me tiens avec les gens de mauvaise vie. Puis vous ne reconnaissiez pas l'enseignement de Jean-Baptiste, mais Jésus dit, mais les péagers et les prostituées reçoivent mon enseignement. Ils croient en moi. Ils me suivent. En d'autres mots, les péagers et les gens de mauvaise vie qui suivaient Jésus avaient quelque chose que les Juifs n'avaient pas. Ils avaient l'humilité de reconnaître qui ils sont vraiment. La seule différence avec les Juifs, c'est qu'ils étaient autant pécheurs, mais ils ne le reconnaissaient pas. La seule différence entre un jeune qui a grandi dans une famille chrétienne et qui n'est pas touché par Dieu, qui est intouchable, il voudrait faire tellement de choses pour Dieu, puis il voudrait que son ministère soit reconnu, puis il voudrait avoir plus de place dans l'Église, puis il voudrait que Dieu fasse ci pour lui, puis il voudrait que Dieu fasse ça pour lui, puis il voudrait que Dieu donne ci, puis que Dieu pourvoie pour ça, puis que Dieu dirige, puis que Dieu réponde, puis que Dieu guide, puis Dieu pardonne, puis Dieu l'aide, puis Dieu... Puis il voudrait tout ça de Dieu, puis la seule différence entre lui et le jeune qui est ici ce soir, qui a tellement de choses à oublier en arrière, c'est que ce jeune-là, il reconnaît son besoin de Dieu. Puis l'autre, il ne le reconnaît pas. Que jamais aucun jeune ici ce soir, même si tu n'as rien fait de grave dans ta vie, jamais, jamais ne mets ta tête au-dessus de qui que ce soit. Jamais ne pense, ne te dis jamais à toi-même, mais moi. Parce que Jésus dit qu'il voyait le publicain dans le temple et l'autre qui priait, le pharisien. Le pharisien qui dit, « Oh, je te remercie, oh Dieu, que je ne suis pas comme lui. » C'est grave, hein? C'est grave faire ça. As-tu déjà prié ça dans ta vie? « Oh, je te remercie, Seigneur, que j'ai jamais encore couché avec quelqu'un. Je te remercie, Seigneur, que j'ai jamais encore consommé de drogue. Je te remercie, Seigneur, que je suis jamais tombé dans la pornographie, moi. Oh, je te remercie, Seigneur, parce que moi, là, j'ai jamais fait ça. Seigneur, je te remercie parce que j'ai jamais rétrogradé, j'ai jamais été dans le monde. Oh, Seigneur, je te remercie. J'ai jamais été dans une discothèque, Seigneur, ou un rave. Oh, Seigneur, je te remercie pour ça. » Ça serait terrible de prier ça. Parce que ça serait exactement la même prière que le pharisien. Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme lui. Puis la Bible dit que tout le ciel est penché vers l'autre qui se frappe la poitrine. Puis dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Parce que devant Dieu, les deux sont aussi pécheurs l'un que l'autre. Autant. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui le reconnaît. J'aimerais te dire ce soir, tout ce que Dieu te demande, c'est de te déclarer forfait, de te déclarer disqualifié, que tu aies baigné dans l'eau bénite toute ta vie, que ta mère te lave dans l'eau bénite, que ton père te fasse l'onction à tous les soirs, et que tu manges tes toasts avec des pages de Bible dedans. Who cares? Que tu puisses me réciter tous les livres de la Bible un après l'autre. Des chapitres au complet. Ouh, c'est merveilleux. Tant mieux pour toi. Mais j'aimerais te dire ceci ce soir. Devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Savez-vous qu'est-ce qui fait que des jeunes, que quand on fait l'appel pour inviter les jeunes à reconnaître leurs besoins de Dieu et à venir ici à l'avant, savez-vous pourquoi il y en a qui avancent et qu'il y en a qui n'avancent pas? Écoutez-moi bien maintenant. Il y en a qui n'avancent pas parce qu'ils restent en arrière en prière. Il y en a qui sortent parce qu'ils doivent quitter parce qu'ils travaillent de soir ou ils travaillent de nuit. Il y en a qui ont des raisons valables. Mais il y en a dans la maison de Dieu, partout à travers le monde entier, que quand l'appel est fait de leur dire, « Je t'invite à reconnaître ton besoin de Dieu », le message ne se rend même pas jusqu'à eux. Le message tombe à terre. Parce que c'est comme les gens dans le temps qui discutaient avec Jésus. Incroyable! Le Messie, il est là. Il fait des miracles devant toi. Il guérit des malades devant toi. Il ressuscite des morts devant toi. Puis toi, tu discutes avec lui. Puis pendant ce temps-là, il y a des péagers puis des prostituées qui sont en train de clencher puis de rentrer dans le royaume de Dieu à 100 000 à l'heure. Parce qu'eux reconnaissent leurs besoins de Dieu. Eux ont la franchise de dire ce que tout le monde, de toute façon, devrait dire. J'ai besoin de Dieu. L'humilité reconnaît son échec. Le mot amartelos ne voulait pas dire amartelos, là, gens de mauvaise vie. Ce terme-là, à la base, ne voulait pas dire quelqu'un qui est méchant. Le terme amartelos voulait dire quelqu'un qui a essayé et qui n'a pas réussi. Quelqu'un qui a tout fait pour essayer de plaire à Dieu, puis a échoué. Quelqu'un,
c'est un terme qui est utilisé pour manquer la cible. Quelqu'un qui met tout ce qu'il peut, là. Tout ce qu'il peut pour tirer.
Quand j'étais avec mon beau-père dans le bois, là, il m'a sorti son magnum. Il m'a dit, tu vas tirer dans l'arbre, là-bas. Puis là, j'ai pogné le magnum. Puis la première fois qu'il m'est arrivé, pow! Le gun, il a refallé le main. C'est une bombe, ce gun-là. Puis j'étais sourd. Ouh! Puis là, je voyais mon beau-père me parler. Puis là, j'étais sourd. Puis là, finalement, c'est parti. Il dit, ah, excuse-moi, il m'a mis des bouchons dans les oreilles. Ça, c'est un méchant gun. Il dit, c'est un gros magnum. Fait que, hey, moi, j'étais un vrai. Là, il m'a donné des trucs. Puis là, là, c'est compliqué, là. Plus tu respires, plus tu tiens le gun. Puis là, tu checkes dans le visu, là. Tu piques. Puis 40 000 fois, j'ai tiré à côté. Parce que même, j'ai tué un araignée à quelque part dans le fond du bois. C'est pas que je voulais pas. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour toucher l'arbre. Puis là, mon beau-père, lui, qui a gagné des prix, qui a même fait des compétitions aux États-Unis dans la CIA. C'est vraiment quelqu'un. Il a pogné son gun. Je pense que l'arbre a tombé. Il l'a pas manqué, là, tu sais. Mais le mot amartolos, là, ça voulait dire tout simplement ceci. J'ai vraiment essayé, là. J'ai vraiment essayé de plaire à Dieu, Pasteur Chris. J'ai échoué. Je pensais que je ferais jamais ça. Je pensais jamais que j'allais tomber. Je pensais jamais que j'allais faire ce péché-là. Je pensais jamais que j'allais faire quelque chose d'aussi grave. Je suis tellement déçu de moi-même. C'est ça, Amartolos. J'ai essayé, mais j'ai échoué. Il n'y a pas une personne, incluant moi, ici ce soir, qui n'a pas de regret. Pas une personne ici ce soir qui peut se tenir devant Dieu, qui peut dire, « Hey, moi, je peux discuter avec Dieu. » Non. Je prie alors que l'attraction de Christ est là pour chacun d'entre nous. Les seuls qui répondent à son amour d'attraction sont ceux qui ont de l'humiliation dans leur vie, qui s'humilient et qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. J'invite les musiciens à s'approcher, j'ai terminé. C'est tellement beau la pensée, en terminant ce soir, que ces gens-là, des riches, collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie, des gens des businessmen, des gens de business, de transactions financières, quittaient leur business. Et la Bible dit, ils suivaient Jésus partout, partout où il allait. Quelle dépendance de Dieu, hein? Quel Jésus au quotidien. Ce n'était pas un Jésus du vendredi soir, ce n'était pas un Jésus du dimanche matin. C'était un Jésus de chaque moment, un Christ de chaque instant. Il voulait Jésus tout le temps. C'est beau, c'est marqué dans la Bible. C'est marqué que ces gens-là de mauvaise vie le suivaient partout où il allait. Je peux imaginer Matthieu, je peux imaginer Zachée, je peux imaginer des prostituées. Je peux imaginer des hommes qui avaient été dans l'homosexualité. Je peux imaginer des gens qui avaient fait des choses tellement graves dans leur vie. Des gens qui avaient eu tellement de regrets. Finalement, quelqu'un les avait pardonnés. Finalement, quelqu'un les avait aimés. Je termine avec cette pensée ce soir, alors que je fais l'appel. Je n'avais pas prévu la dire, mais je sens dans mon cœur. J'étais touché durant mes vacances par une seule pensée. Ce soir, je sens vraiment que je vais aller faire l'appel avec ça. Juste avant, là, quand le paralytique est descendu, là, paralysé, souvenez-vous qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Après, il a dit, quelle différence est-il entre tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. Puis il s'est levé puis il a marché. Cet homme-là n'était pas descendu pour se faire dire, tes péchés sont pardonnés. Ce paralytique-là était descendu devant Jésus pour se faire dire, lève-toi et marche. Mais Jésus voyait un besoin dans sa vie encore plus important que de marcher physiquement. Le besoin d'être pardonné. Et pour Jésus, là, Jésus pouvait le guérir puis il l'a guéri. Mais en d'autres mots, ce que Jésus voulait dire, là, si je ne pouvais pas te guérir, ce serait bien plus important que je pardonne tes péchés. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que de savoir que tes péchés, tes regrets, tes hontes, tes remords sont pardonnés et sont oubliés. Je vais demander à tout le monde ce soir de pencher la tête à terre. Je demanderai au musicien de ne pas jouer. Juste un instant. J'aimerais faire un appel ce soir. Je sentais pas aller vers là, mais je vais aller vers ceci. J'aimerais te dire ce soir, si tu as des regrets, si tu as des remords, s'il y a des choses que lorsque tu y penses, tu te sens tellement mal, des choses que tu as faites, des choses que tu as regardées, des choses dans lesquelles tu as rechuté. J'aimerais te dire, Jésus te regarde ce soir. Il voit tous tes besoins physiques. Il voit tous les besoins que tu as dans ta vie. Mais Jésus en a après une seule chose qui est plus importante que tout le reste ce soir. Il veut pardonner tes péchés. Jésus a dit au paralytique, avant d'être guéri, il y a une chose qu'il faut que je règle qui est encore plus importante. Je vais pardonner tes péchés. Et Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. J'aimerais te dire ce soir, le Seigneur Jésus est ici. Il est vraiment ici, maintenant. Et il a tout pouvoir. Il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Et si tu es un jeune qui est dans ce lieu ce soir, et tu veux dire, moi, Christian, je ne serais pas comme les Juifs qui discutaient avec Jésus. Je ne serais pas quelqu'un qui ne reconnaît pas son besoin de Dieu. J'ai fait des gaffes. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des choses qui sont dignes d'être appelées de mauvaise vie. Et je ne suis plus capable de vivre avec ça. Je suis venu ici ce soir. Puis la plus belle chose qui ne pourrait pas m'arriver, ce serait que ça soit réglé une fois pour toutes. J'aimerais recevoir ce soir le pardon de Dieu. J'aimerais que Jésus me pardonne pour mes péchés. Je suis un enfant de Dieu. J'ai grandi peut-être dans une famille chrétienne, mais il y a des choses que j'ai faites. Je me sens mal. J'ai besoin du pardon de Dieu. Mais le pardon est seulement pour ceux qui reconnaissent leurs besoins. Si tu es ici ce soir et tu veux demander pardon au Seigneur, plein cœur de l'été, pardon d'avoir été à un tel endroit, pardon d'avoir justifié quelque chose qui n'est pas tolérable devant Dieu, et tu es ici ce soir et tu veux demander pardon au Seigneur Jésus, j'aimerais que tu puisses lever la main tout de suite sans aucune hésitation devant le Seigneur Jésus. Plusieurs mains se lèvent. Même si ça fait longtemps, Seigneur, je vais te demander pardon, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Si tu savais comment le Seigneur t'aime, si tu pouvais connaître son amour ce soir et découvrir à quel point le Seigneur Jésus pardonne, je te demande de recevoir cette parole avec foi ce soir. Ce que Jésus a dit au paralytique, il veut te dire à toi ce soir. Tes péchés sont pardonnés. Et tu donnes. C'est fini. C'est réglé. C'est passé pour toujours. Je ne veux même plus que tu y penses. Je te refuse le droit de penser à tes péchés. C'est fini. La page est blanche. Tes péchés sont pardonnés. Hallelujah. Alors que les musiciens jouent tout doucement ce soir, j'aimerais juste ouvrir l'autel. Juste ouvrir cet endroit où il y a le tapis ici devant moi, alors que Marie-Esther commence à jouer tout doucement. J'aimerais juste t'inviter ce soir à répondre à l'amour de Dieu, à répondre à son attraction, à avoir une attitude d'humiliation devant Dieu, t'humilier devant Dieu. Oh, je t'en prie, que personne ne te clenche dans le royaume de Dieu. Moi, je ne veux pas que personne me clenche. Je ne veux pas que personne me précède dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas arriver au ciel et que le Seigneur me montre des gens de mauvaise vie qui ont été plus loin que Christian Robichaud parce qu'il y avait un secret que Christian n'avait pas. Ils reconnaissaient tellement leur besoin de Dieu. Je veux reconnaître mon besoin de Dieu. Je n'en ai pas assez de Dieu. J'ai besoin de plus de Dieu dans ma vie.
si c'est toi ce soir, alors que tout le monde en se lève ensemble, que tu veux venir vers Dieu, simplement venir vers lui. Peut-être pour l'adorer, peut-être pour le chanter, peut-être pour le louer, peut-être pour le prier, peut-être pour faire la paix avec Dieu, peut-être pour revenir à Dieu, peut-être pour lui demander pardon, peut-être pour intercéder pour quelqu'un. Mais si tu veux venir à Dieu ce soir, je vais t'inviter à l'avant, venez tout de suite, tout de suite, tout de suite, sans hésiter, alors que plusieurs s'approchent déjà. Plusieurs commencent à s'approcher. Jésus n'est pas l'ami des orgueilleux. Il est l'ami de ceux qui reconnaissent qu'ils ont une mauvaise vie. Pas personne de bon devant Dieu. Mais celui qui est humble, Dieu va s'approcher de lui ce soir. Ça ne veut même pas dire qu'il faut que tu t'avances physiquement. Tu peux peut-être rester à ta place. Tu peux être peut-être plus sérieux et plus sincère à ta place en arrière que certains qui se sont avancés. L'important, c'est que tu approches ton cœur de Dieu ce soir. Hallelujah. Certains avaient besoin de venir et de dire, Seigneur, grandis dans ma vie. Seigneur, fais de moi un ami des gens de mauvaise vie. Seigneur, donne-moi des amis pas chrétiens. Donne-moi des contacts avec des non-chrétiens, Seigneur. Seigneur, donne-moi de l'influence sur des non-chrétiens, je t'en prie. Seigneur, sers-toi de moi. Envoie-moi, Seigneur. Oh, je ne veux pas être un chrétien monastique, un chrétien d'église. Je veux sortir de l'église. Je veux pas juste aller à mon GI, aller à l'église, aller à la jeunesse, Seigneur, envoie-moi. Je veux me retrouver dans la maison de Matthieu cette semaine. Seigneur, donne-nous des jeunes qui vont se retrouver dans la maison de Matthieu cette semaine. Seigneur, je t'en prie. Donne-nous des jeunes. Donne-nous des jeunes qui vont être comme Jésus. Amis des gens de mauvaise vie. Demande-le au Seigneur. Si tu savais comment je me suis repenti quand j'ai lu ce texte, à quel point j'ai courbé devant Dieu. Oh, je veux avoir la réputation d'être un ami des gens de mauvaise vie. Je veux que les gens parlent de Pasteur Chris et disent, c'est incroyable, Pasteur Chris, il y a plein d'amis pas chrétiens. Il est souvent avec ses voisins, avec des non-chrétiens, puis il parle avec eux, puis il a un contact, une communion avec eux. Ils attirent à Dieu. Si tu savais à quel point cette parole est rentrée profondément en moi et a produit une grande repentance, demande au Seigneur ce soir. Alors que Marie-Sœur et le band nous conduisent dans un temps de prière, d'adoration, de contemplation, d'intercession, de louange, de repentance, que le Saint-Esprit prend possession pleinement de ce moment. Viens vers Jésus. Et si tu es un jeune ce soir dans ce lieu, que tu n'as pas une vie digne de Dieu, j'aimerais te dire, tu es le bienvenu. Jésus est l'ami des gens comme toi. Hallelujah. Jesus.
J'adore et ton